Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raison gardée, avec moi aujourd'hui au micro Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Alors, à la Libre Pensée, on a une formule que nous répétons très souvent, fonds publics à l'école publique, fonds privés. Charles, fonds privés.
À l'école privée.
Voilà, très bien.
Pardon.
Et nous vous proposons aujourd'hui de faire un petit peu d'histoire pour cette émission et la prochaine sur justement cette différence entre école privée et école publique qui n'est pas récente du tout. L'idée d'un enseignement piloté par l'État est très ancienne. Un procureur général du Parlement de Bretagne, Lachalotel, avait déjà défendu cette idée en 1763 et les révolutionnaires avaient tenté de la mettre en œuvre très rapidement à la Révolution. La convention entre 1792 et 1795 avait proclamé des décrets pour déclarer qu'il devait y avoir partout des écoles primaires. C'est avec Napoléon en particulier que vont s'installer les différentes structures scolaires qui rappellent encore notre organisation à nous, bien sûr. D'abord, des écoles primaires, par exemple, avec donc des maîtres qui étaient choisis par les maires, selon les personnes qu'ils pouvaient trouver et les recommandations locales. Il n'y avait pas encore de recrutement bien organisé. Et on demandait à ces instituteurs d'enseigner la lecture, l'écriture, les éléments fondamentaux de calcul et quelques principes généraux de morale. Les sous-préfets étaient chargés de gérer cette organisation et rendaient compte au préfet. Les écoles secondaires ont aussi été développées. On y enseignait le latin, le français, l'histoire et les mathématiques. Et on voit se développer aussi des prix qui récompensent la bonne instruction. Et ces écoles secondaires pouvaient être établies uniquement à partir d'une autorisation du gouvernement. Elles étaient aussi sous la surveillance des préfets. Les lycées ensuite, créés pour l'enseignement des lettres et des sciences, il était prévu d'en implanter un peu partout. On enseignait plutôt les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale, les mathématiques, les sciences physiques. Et il fallait obligatoirement une petite équipe de professeurs, on ne pouvait pas être à moins de 8. Et on pouvait aussi y trouver des maîtres d'études, de dessin et d'exercices militaires également. Donc on était admis dans ces écoles par un concours. Chaque lycée avait son administration, un proviseur, un censeur des études, on appelait ça aussi, un économe. Et le bureau d'administration était composé du préfet, du président du tribunal, du maire et du proviseur qui veillait au bon fonctionnement de l'établissement et à la bonne tenue de ses comptes. Mais en même temps, dès 1800, on a fait appel aux membres des anciennes congrégations enseignantes qui avaient été pour l'essentiel dissoutes. On a fait appel aussi à des juristes, à d'anciens officiers pour entrer dans ces lycées, puisqu'il y avait des difficultés de recrutement, mais aussi des difficultés pour trouver des locaux. Et on a parfois été chercher de la place dans les couvents qui avaient été supprimés. La discipline dans ces établissements était quand même assez sévère, on peut même la qualifier un peu de militaire, parce que l'idée était quand même bien de former des citoyens disciplinés, hein, disons-le. Et beaucoup de symboles militaires marquaient la vie scolaire, notamment enfin, dans la discipline, bien sûr, mais aussi on pouvait avoir des temps d'apprentissage du maniement des armes. Et puis après, il y avait des écoles spéciales, hein, pour ce que nous on appellerait le supérieur, où on y étudiait de façon plus approfondie les sciences. Et puis, c'est à cette époque aussi que se crée une école dédiée à la formation militaire que l'on connaît encore aujourd'hui, c'est l'école de Saint-Cyr. La volonté de l'État est aussi de surveiller l'enseignement donc dans le supérieur, et c'est notamment la constitution des grades universitaires. Et c'est pour ça aujourd'hui encore on dit que le baccalauréat est le premier grade de l'université, et en fait ça date de cette époque, hein. Les grades dans chaque faculté étaient au nombre de 3, il y avait le baccalauréat, la licence et le doctorat. Donc s'était développé ce système, mais qui n'empêchait pas le développement de formation, de lieux de formation qui étaient pris en charge par des religieux. Alors, pour donner quelques chiffres, dans les années 1830, on constate quand même que le budget de l'éducation avait été passé de 50 000 francs à 1 500 000 francs, mais qu'il y a encore une commune sur deux qui n'a pas d'école primaire. Donc, il y a, dans les années 1830, une réflexion, notamment du comte de Montalivet, qui est ministre de l'instruction publique, et qui envisage un grand projet de loi sur l'instruction primaire. Il pose le problème de l'enseignement primaire obligatoire et il n'y est pas tout à fait favorable. Il dit « Il serait imprudent de porter atteinte à la puissance paternelle et aux droits de la famille, même dans l'intérêt des enfants. Cette instruction, imposée par la force, serait reçue avec méfiance, surtout dans les campagnes, et on ne pourrait croire au bienfait d'une institution qui se présenterait sans les avantages de la liberté. » Donc là, c'est un premier frein à cette idée d'instruction obligatoire, la crainte de se heurter aux familles. Rappelons que les enfants sont de la main-d'œuvre aussi, hein, dans les campagnes. Pourtant, donc c'est une première loi qui nous intéresse dans l'histoire de l'éducation nationale, c'est la loi Guizot de 1833, qui rend l'école primaire obligatoire dans les communes de plus de 500 habitants, en laissant une certaine liberté aux congrégations, puisque un particulier peut ouvrir une école primaire, c'est-à-dire que le contrôle n'est quand même pas encore très très important. On arrive assez vite à énoncer quand même dans cette loi deux principes fondamentaux, la liberté de l'enseignement et l'organisation d'un système scolaire public. Donc, le clergé catholique a donc la possibilité d'avoir encore une très large influence. Et je précise tout de suite que pour les filles, il n'est pas question encore de cette obligation d'instruction. Il faudra attendre 1836 pour qu'on s'occupe de leur sort. Ce François Guizot, donc, qui est le ministre de l'Éducation, je ne l'ai pas dit, exige en tout cas que tout instituteur, qui doit être âgé au moins de 18 ans, ait en sa possession ce qu'on appelle un brevet de capacité. Il s'agit de veiller quand même au niveau des enseignants qui doit singulièrement s'améliorer des enquêtes qui avaient été menées. On avait quand même envoyé quelques représentants de l'État pour savoir un petit peu ce qui se passait dans les écoles, avaient constaté quand même des difficultés et quelques lacunes dans le niveau. Donc il y a un corps d'inspection qui va être organisé assez rapidement dès 1835. Donc ce qu'on constate, c'est une alphabétisation des petits français, donc à défaut des petites françaises pour le moment, et le budget augmente cette fois-ci, nous en sommes à partir de 1837 à 6 millions de francs, et la France accueillait 2 millions d'élèves à peu près au début des années 1830, et en 1847 on en arrive à 3 millions. La loi Guizot, donc je le disais, affirme deux principes, la liberté de l'enseignement et l'organisation d'un système scolaire public. Cette réforme distingue déjà une école publique et une école privée, hein, au nom donc de cette liberté d'enseignement. Et du point de vue pédagogique en revanche, Guizot opte pour une méthode d'enseignement qui était plutôt celle utilisée par la congrégation des frères des écoles chrétiennes, une organisation que l'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire enseigner la même chose en même temps à des enfants de même niveau. Là où avant, il était, la situation la plus fréquente était celle d'une même classe avec des élèves d'âge différents. Donc c'est à ce moment qu'on voit un peu s'installer une autre façon d'envisager la répartition des élèves et la pédagogie. Une lettre aux instituteurs, qui date aussi de cette époque-là, de 1833, leur rappelle qu'ils ont, alors je cite, une noble mission, et que cette mission est d'importance nationale. Et outre le brevet de capacité, on attend d'eux, bien sûr, de faire preuve de la plus grande moralité, et il faut une autorisation du recteur qui est imposée à tout enseignant, aussi bien public que privé. Donc ça, c'est une avancée intéressante. Je parlais tout à l'heure des enquêtes qui avaient été menées. Eh bien, les inspecteurs déplorent des fautes d'orthographe absolument catastrophiques dans les documents des instituteurs, ce qui les conforte dans l'idée qu'il faut absolument créer des lieux de formation, créer un concours. Et donc, on se dirige vers des compositions qui doivent permettre de sélectionner parmi des candidats et des candidates puisque l'école maintenant va aussi concerner les filles. Ces épreuves peuvent être donc des pages d'écriture, du calcul, une dictée, par exemple, avec un certain degré d'exigence. Mais évidemment, les cléricaux et l'Église, avec un E majuscule, pensent que cet enseignement aux mains des laïcs favorise le développement d'idées qui ne sont pas les leurs. Les idées qu'on qualifiait à l'époque de socialistes, de démocratiques, les idées des Lumières, bref, ils y voient une manière d'émanciper le citoyen qui risque de l'éloigner un peu de la religion et évidemment du contrôle du clergé. Donc on a à la fois un développement même des financiers hein, dans les mairies des écoles, on y met plus de moyens, on recrute mieux les professeurs, on voit l'organisation de cette école publique, mais aussi des réflexions de l'Église qui se méfie de l'anticléricalisme qui est avéré, alors là aussi, dans une enquête menée dans les années 1830, c'est l'enquête qu'on appelle l'enquête Guizot-Lorrain, on interroge des instituteurs les instituteurs répondent assez franchement qu'ils sont fondamentalement anticléricaux. Alors, il y a par exemple un inspecteur qui demande à un maître « Où en êtes-vous de l'instruction morale et religieuse ?» Et il répond « Je n'enseigne pas ces bêtises-là ». Donc, ce qui a dû suffisamment choquer l'inspecteur lui-même pour qu'il reporte exactement ce qu'on lui a dit, ce qu'on a répondu à sa question. Et un autre fait qui est repéré dans un rapport, dans la Manche, un instituteur d'une école emmène ses élèves dans la ville et il leur fait chanter la Marseillaise. Et en passant devant le presbytère, il fait crier à ses élèves « Abat les jésuites, abat les calottes !» On peut considérer qu'il y a une sorte de déclaration de cette fameuse guerre scolaire dont on parle parfois. Et le rapport présente ainsi plusieurs anecdotes qui semblent indiquer effectivement un anticléricalisme assez net chez certains maîtres, comme on le disait à l'époque. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, il va se passer déjà historiquement que la Deuxième République s'installe en 1848 et que on réfléchit à nouveau à cette instruction scolaire. Mais cette instruction scolaire, eh bien, elle va donner lieu à une loi qu'on appelle la loi Fallou. Alors, je resitue rapidement, donc il y a eu des moments révolutionnaires en 1848, et pendant cette insurrection sociale qui est réprimée dans le sang, ce qu'on appelle le bloc bourgeois s'est organisé. C'est le parti clérical qui s'est trouvé des alliés chez les monarchistes, chez certains aristocrates, auprès donc de fervents catholiques qu'on trouve aussi dans la bourgeoisie. Donc il constitue ce parti qu'on appelle le parti de l'ordre, mais qui n'est pas institué sous cette étiquette-là, et un ensemble politique dans lequel on trouve des libéraux qui ne sont même pas forcément croyants, mais qui voient des intérêts communs à défendre avec ce bloc bourgeois. Il y a une petite formule de Flaubert dans l'éducation sentimentale que j'aime bien pour son ironie, qui dit à propos de cette formation du bloc bourgeois « Alors la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu ». Référence aussi à l'espèce de slogan de ce parti qui était « Ordre, propriété et religion ». Il s'agit bien d'un mouvement politique contre-révolutionnaire qui, notamment concernant la question scolaire, se dit que, avec le suffrage qu'on qualifiait à l'époque d'universel, qui ne concerne que les hommes, qui se met en place, le risque est assez grand de voir le citoyen apporter sa voix aux démocrates, aux socialistes, ou pire, comme on le dit dans les journaux, aux rouges. Donc, comment faire pour que le citoyen vote comme un bon notable, comme un bon bourgeois soucieux de l'ordre, du respect de la propriété et du respect de Dieu, sinon en veillant à ce que son instruction lui donne cette orientation. On retrouve effectivement un retour un peu à l'ordre moral. Hein. On peut rappeler que c'est en 1857, donc là on est passé évidemment au Second Empire, mais que des écrivains comme Flaubert justement ou Baudelaire auront droit à un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Un peu dans cette perspective-là. Qui a été nommé ministre de l'instruction publique après les événements insurrectionnels de 1848, c'est Lazare Hippolyte Carnot. Il a un projet qu'il a élaboré avec une commission des études scientifiques et littéraires qui prévoit l'enseignement obligatoire pour les enfants des deux sexes et une formation des instituteurs et des institutrices pendant 3 ans aux frais de l'État. Son projet mettait donc plutôt en avant l'école publique, tout en laissant une place à l'enseignement libre. Après les journées de juin 1848, il essaye de faire voter son projet, mais il est mis en minorité, il démissionne et son projet est mis de côté. On abandonne ce projet d'école primaire gratuite et obligatoire et laïque porté par Carnot et vont construire une réforme scolaire, Thiers, Victor Cousin, le Monseigneur Dupanloup, et Fallou, qui va donner son nom aux lois Fallou. Des lois qui suscitent des débats et qui nous vaudront quelques grands textes pour porter la contestation, et notamment par la voix
de Victor Hugo.
De Victor Hugo,
le 15 janvier 1850.
Qui prend la parole.
Et pour déjà dénoncer aussi une chose, c'est à l'époque, écrivait déjà, « Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout, la justice nulle part. » Bon, je vais vous dire quelques extraits de son discours, qui est très long, à la tribune de l'Assemblée nationale. Donc, Victor Hugo, je cite, hein, « J'entends maintenir, quant à moi, cette antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État, qui était la sagesse de nos pères. Et cela dans l'intérêt de l'Église comme dans l'intérêt de l'État. Mais ça, messieurs, je viens de vous dire ce que je voudrais. Voici maintenant ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de la loi qu'on vous apporte. Pourquoi ? Messieurs, cette loi est une arme. Une arme n'est rien par elle-même. Elle n'existe que par la main qui la saisit. Or, quelle est la main qui la saisira, qui se saisira de cette loi ? Là est toute la question. Messieurs, c'est la main du parti clérical. Je veux, je le répète, et je résume en un mot, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. Je m'adresse au parti qui a, sinon rédigé, du moins inspiré le projet de loi, à ce parti à la fois éteint et ardent, au parti clérical. Je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée, mais je le sens un peu partout. Il a l'oreille fine, il m'entendra. Je m'adresse donc au parti clérical et je lui dis... Cette loi est votre loi. Tenez, franchement, je me défie de vous. Instruire, c'est construire. Je me défie de vous, de ce que vous construisez. Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la jeunesse. J'aime les enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie. l'esprit des générations nouvelles, c'est-à-dire l'avenir de la France. Parce que vous le confiez, ce serait vous le livrer. Il ne me suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, mais qu'elles nous continuent. Voilà pourquoi je veux ni de votre main, ni de votre souffle sur elles. Je ne veux pas ce qui a été fait par nos pères, soit défait par vous. Après cette gloire, je ne veux pas de cette honte. Votre loi est une loi qui a un masque. Elle dit une chose et en ferait une autre. C'est une pensée d'asservissement qui prend les allures de la liberté. C'est une confiscation intitulée « Donation, je n'en veux pas ». Je repousse votre loi. Je la repousse parce qu'elle confisque l'enseignement primaire, parce qu'elle dégrade l'enseignement secondaire, parce qu'elle abaisse le niveau de la science, parce qu'elle diminue mon pays. Je la repousse parce que je suis de ceux qui ont un serrement de cœur et la rougeur au front toutes les fois que la France subit, pour une cause quelconque, une diminution de territoire ou une diminution de grandeur intellectuelle comme par votre loi. Avant de terminer, permettez-moi d'adresser du haut de la tribune au parti clérical, au parti qui nous envahit un conseil sérieux. Ce n'est pas l'habileté qui lui manque. Quand les circonstances aident, il est fort, très fort, trop fort. C'est l'art de maintenir une nation dans un état mixte et lamentable. Ce n'est pas la mort, mais qui n'est plus la vie. Il s'appelle gouverner. Il appelle cela gouverner. Qu'ils y prennent garde. Le 19e siècle lui est contraire, qu'il ne s'obstine pas, qu'il renonce à maîtriser cette grande époque pleine d'instincts profonds et nouveaux. Sinon, il ne réussira qu'à la courroucer, il développera imprudemment le côté redoutable de notre temps et il fera surgir des éventualités terribles. Oui, avec le système qui fait sortir l'éducation de la sacristie et le gouvernement du confessionnal, que le parti clérical le sache. Partout où il sera, il engendrera des révolutions. C'est votre habitude. Quand vous forgez une chaîne, vous dites « Voici une liberté ». Quand vous faites une proscription, vous criez « Voilà une amnistie ». Ah, je ne vous confonds pas avec l'Église, pas plus que je ne confonds le gui avec le chêne. Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. Vous êtes non les croyants, mais les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas, les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l'Église à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions. Surtout, ne l'identifiez pas avec vous. Voyez le tort que vous lui faites. Vous faites si peu aimer que vous finirez par la faire haïr. Ah, nous vous connaissons. Nous connaissons le Parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de service. C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. Celui qui a trouvé pour la vérité ces deux étés merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui a fait défense à la science et au génie d'aller au-delà du missel qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Pour les pas qu'a fait l'intelligence de l'Europe, elle les a fait malgré lui. Son histoire est écrite dans l'histoire du progrès humain, mais elle écrite au verso, il est opposé à tout.
Oui, je crois qu'on peut s'arrêter voilà, oui. Là, effectivement, dans la critique que porte Hugo, qui va un peu au crescendo hein, dans son attaque. Et effectivement, il oppose radicalement un peu l'esprit des Lumières, la volonté d'émancipation aux intentions de ce parti clérical qu'il accuse hein, de vouloir maintenir les gens dans l'ignorance et dans l'erreur, comme tu viens de le relire dans ce discours qui comporte quelques formules célèbres dont celle que tu redisais au tout début l'Église chez elle
et l'État chez lui.
Et l'État chez lui. Alors, il ne réussit pas à porter vraiment le combat jusqu'à la victoire puisque la loi est promulguée. Alors, bien sûr, c'est une loi qui à nouveau vise à développer et notamment à rendre obligatoire la création des écoles de filles dans les communes de 800 habitants, mais c'est aussi une loi qui permet aux congrégations catholiques d'ouvrir en toute liberté un établissement secondaire avec les enseignants de leur choix. Donc ce Fallou, bah lui, il est catholique libéral, hein, légitimiste, donc au nom de la liberté de l'enseignement, il a tenu à laisser cette place à l'enseignement catholique. et un enseignement confessionnel et congrégationniste aussi au niveau des écoles primaires et secondaires, alors que depuis Napoléon Ier, il y avait quand même un monopole d'État qui essayait de se développer. Cette loi a été approuvée, sans surprise, par toute la droite conservatrice et en particulier un député Adolphe Thiers, sinistrement connu. Et malgré le tollé exprimé par les anticléricaux, dont Victor Hugo que nous venons d'entendre, eh bien, la loi Falloux passe et il faudra attendre l'instauration des lois de Jules Ferry sous la République suivante pour pouvoir voir vraiment le gouvernement réussir à développer une instruction publique, laïque et obligatoire. Mais le combat ne sera pas fini, ce sera l'objet d'une autre émission. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter en chanson avec Maxime Le Forestier qui nous chante La maîtresse d'école.
À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées, au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat, et les pauvres marchands de bonnets d'âne crac connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents ex-échos, d'excellents ex-échos. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant téméreux devenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.